Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être frappé d'effroi et à être tourmenté. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Et il alla vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous n'alliez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis. Car leurs yeux s'étaient alourdis, ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche. »
Nous avons ici une situation bien humaine, situation auquel Jésus est confronté. La première, Jésus subit une injustice flagrante. Par son enseignement, par son rapport à la loi, les chefs pharisiens ne veulent plus le voir, ne veulent plus l'entendre, ne veulent plus voir la foule le suivre. Comme tous les chefs, ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Ils n'acceptent pas d'écouter l'enseignement de Jésus. Une autre facette de cette situation, c'est que face au tourment profond qui le frappe, Jésus choisit trois amis parmi ses disciples. Mais ils ont beaucoup de mal à se tenir à côté de Jésus et à l'aider. Alors, Jésus est encore plus seul qu'il n'a jamais été. Il est abandonné de tous. Jésus interroge dans sa prière l'Éternel et place dans sa prière ce qu'il veut, ne pas mourir. Mais en même temps, il dit à l'Éternel, « Dis-moi ce que tu veux. » Jésus sait que ce n'est pas l'Éternel qui veut le faire mourir. Mais comment va-t-il aider Jésus dans cette épreuve? Alors Jésus prie longuement. Sa prière va durer toute la nuit. Mais il se bat aussi avec l'Éternel. Car au fond de sa prière, Jésus demande de ne pas mourir, de ne pas souffrir. Comme tout être humain, il reconnaît qu'il n'a pas fait de mal. C'est injuste ce qui lui arrive. Situation que nous avons déjà tous connue. Jésus sait que l'Éternel ne veut pas sa mort, car l'Éternel est tout amour. Mais alors, que va-t-il faire pour aider Jésus? Jésus comprend, au cœur de sa prière, qu'il ne peut pas aller en arrière. Il ne peut pas retourner à Nazareth. Il ne peut pas redevenir menuisier. Sinon, tout son enseignement va disparaître. Il comprend alors, malgré la douleur de mourir si jeune, si injustement, que l'Éternel, d'une manière ou d'une autre, lui donnera raison. Dans son silence, dans la prière, l'Éternel a rejoint Jésus et a répondu à son amour et à sa fidélité. Après l'angoisse, après la révolte devant sa mort injuste, Jésus trouve peu à peu la paix dans l'amour que son Père lui donne et dans l'amour qu'il porte à son Père. Jésus se sent prêt maintenant à aller jusqu'à la mort dans la confiance avec son Père. C'est ainsi que nous apprenons et à vivre chaque jour que aimer, ce n'est pas supprimer l'épreuve de celui ou celle que l'on aime, c'est l'accompagner dans sa souffrance et sa difficulté. L'amour ne peut pas éviter les épreuves, mais il est dans la présence fidèle à côté de ceux qui souffrent.
Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, par les scribes et les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha aussitôt de Jésus, disant « Rabbi !» Et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit « Vous êtes sortis comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'une fine étoffe. Ils se saisirent de lui, mais il lâcha la fine étoffe et se sauva tout nu.
Thank you.
Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, où s'assemblèrent tous les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du grand prêtre. Il s'assit avec les serviteurs, se chauffant près de la flamme. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et s'ils n'en trouvaient point, et ils n'en trouvaient point. En effet, plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, en disant « Nous l'avons entendu dire, moi, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en construirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le grand prêtre, se levant, au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien à ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogea et lui dit « Toi, es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Alors Jésus dit « Moi, je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant avec les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Que vous en semble ?» Tous le condamnèrent comme passible de la peine de mort, et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui recouvrir le visage et à le gifler en lui disant « Prophétise !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets.
Les pharisiens dont le nom signifie « ceux qui sont à part, les purs », étaient très écoutés au temps de Jésus. Ils représentaient l'attachement à la tradition, à un ordre moral sécurisant. Dans leur conception, Dieu est le gardien d'une loi traditionnelle. 613 prescriptions diverses, dont font partie les 10 commandements. Il convient à l'homme de se soumettre fidèlement à la règle divine. Mais Jésus faisait souvent des guérisons le jour interdit, le jour du sabbat. Il transgressait délibérément certaines lois. C'est ainsi qu'il guérit l'homme à la main sèche dans Luc 6, attachant ainsi plus d'importance à la bienveillance envers une personne qu'à la loi de Dieu dictée par les hommes. C'est notamment à cause de cet acte que les pharisiens décidèrent sa condamnation. Il fallait éliminer celui qui déstabilisait leur idéal au nom d'un humanisme beaucoup plus beau. Une simple obéissance à la loi. Je vous invite à la prière. Jésus, notre frère, nous nous inclinons devant toi. Toi qui as subi moqueries et insultes, toi qui as subi coups et blessures, tu rassembles en ton amour tous ceux et celles qui sont injustement insultés, méprisés, blessés, parce qu'ils dérangent, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Jésus, notre frère, nous nous tenons près de toi. Toi que les chefs religieux de ton peuple ont condamné, toi que la foule va lâchement abandonner, tu rassembles auprès de toi tous ceux et celles qui sont abandonnés, lâchés, exclus, parce qu'ils ne plaisent pas, parce qu'ils pensent autrement, parce qu'ils vivent différemment. Jésus, notre frère, garde-nous auprès de toi, toi qui nous as annoncé la bonne nouvelle de l'amour de Dieu, toi qui nous as enseigné et montré le chemin du pardon. Tu rassembles en ton amour infini tous ceux et celles qui te cherchent humblement, tous ceux et celles qui se reconnaissent fautifs. Jésus, notre frère, tu es resté fidèle à l'amour de ton Père en donnant ta vie jusqu'à la mort sur la croix. Garde-nous des trahisons et des reniements. Aide-nous à renoncer à toute vanité et fais grandir notre confiance en toi en nous conduisant sur le chemin du royaume.
Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du grand prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Nazaréen. » Il le nia, disant « Je ne sais ni ne comprends ce que toi tu dis. » Et il sortit dehors dans le vestibule. Et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-là est des leurs. » Celui-ci, de nouveau, nia, et peu après, ceux qui étaient là dirent encore à Pierre, « En vérité, tu es des leurs, et en effet, tu es galiléen, Alors il commença à maudire et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la deuxième fois, le coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » Et se détournant, il pleura.
Alors je vous invite à prendre le cantique 33-21. 33-21. Ah non, je me suis trompée. Après. Je parle d'abord. Pardon. Comme j'ai plus les feuilles sous les yeux. Pierre est montré comme le chef des 12. Il a une relation très forte avec Jésus. Enthousiaste, au sens de enthousiaste en Dieu, en Théo, porté par Dieu. Il confesse plusieurs fois sa confiance en Jésus, son maître et son Seigneur. Mais il dit aussi son refus de le voir souffrir. Et il dit aussi sa peur de souffrir lui-même une fois que son chef aura été arrêté. Alors Pierre dira trois fois qu'il ne connaît pas cet homme, Jésus, alors même qu'il a dit juste avant qu'il verra jusqu'au bout avec Jésus. À travers cet homme, Pierre, n'est-ce pas notre humanité qui est ici questionnée? Nous confessons avec plus ou moins d'enthousiasme notre confiance, mais nous avons peur de suivre Jésus jusqu'au bout. Nous reconnaissons Jésus comme maître dans notre vie, mais nous ne comprenons pas qu'il puisse être notre sauveur alors qu'il est mort sous le coup des hommes injustement. Comme Pierre, nous sommes pétris de contradictions, de questions, de refus. Est-il facile de croire en quelqu'un qui nous montre le meilleur chemin et qui est mort sur une croix, abandonné de tous? Avons-nous vraiment confiance en lui? Je vous invite à prendre le cantique 33-21, 33-21, le 1 et le 4. 1 et 4.
Il savait, en effet, que c'était par jalousie que les grands prêtres le lui avaient livré. Mais les grands prêtres excitèrent la foule contre pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit... Vous êtes sûr? Non, c'est avant. Excusez-moi, oui. J'ai commencé au milieu, donc ça n'allait pas. Désolé. Alors, dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. « Toi, es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Toi, tu le dis. » Les grands prêtres portèrent contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. « Ne réponds-tu rien ? Vois tout ce dont il t'accuse. » Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, qui avait été lié avec des émeutiers, et qui, lors d'une sédition, avait commis un meurtre. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous libère, le roi des Juifs ?» Il savait en effet que c'était par jalousie que les grands prêtres le lui avaient livré. Mais les grands prêtres excitèrent la foule pour que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Qu'a donc dit-il fait de mal ?» Ceux-ci crièrent violemment « Crucifie-le !» Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas et livra Jésus, l'ayant fait flageller pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils convoquèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre, et ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mirent sur la tête. Puis ils commencèrent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et il frappait sa tête avec un roseau, et il crachait sur lui. Fléchissant le genou, il se prosternait devant lui.
Jésus vient d'être condamné par le Sanhédrin, le tribunal religieux juif, pour blasphème. Alors il est transféré à l'autorité romaine, à Pilate, qui va être bousculé par les nombreuses accusations des grands prêtres, par les cris de la foule et par le silence de Jésus. Les autorités juives alors n'ont pas le droit de tuer Jésus au moment de l'occupation romaine. C'est pourquoi ils transfèrent Jésus devant Pilate. Mais les autorités accusent Jésus en s'appuyant sur son enseignement sur le royaume. C'est pour ça qu'ils l'appellent roi. Et ils disent qu'il est en train de préparer une révolte pour prendre le pouvoir comme roi. Mais comme c'est Pilate le chef, ça peut poser problème. Pilate a bien compris l'accusation, puisqu'il va faire inscrire en haut de la croix « Inri, Jésus, roi des Juifs ». Mais il a compris aussi que cette accusation est fausse. Il ne sait rien de Jésus, Pilate. On ne lui a jamais parlé de lui. Il n'a jamais entendu parler de lui. Alors il tente de parler avec Jésus, mais Jésus se tait. D'emblée, l'interrogatoire prend une tournure politique. « Es-tu le roi des Juifs ?» Accusation lancée par le Sanhédrin. Les autorités juives savent bien que se prétendre roi dans une province de l'Empire romain est un acte de rébellion. Donc Pilate doit réagir. Mais devant la réponse peu claire de Jésus, devant le silence qui suit, Pilate s'inquiète de ces accusations que les chefs religieux ne cessent de répéter. Alors l'interrogatoire tourne court. Pilate se tourne vers la foule et lui propose de libérer Jésus. Veut-il prendre la foule à témoin contre les autorités religieuses? Mais cette foule, c'est elle qui suivait Jésus dans son enseignement. Mais Pilate se méfie des chefs religieux. Et l'évangéliste nous dit qu'il savait que Jésus lui avait été livré par jalousie. Donc il se méfie. Mais quand Pilate propose à la foule de décider du sort de Jésus, que se passe-t-il? Pilate se dédouane de ses responsabilités. Il demande à la foule de décider. Sa dernière question est troublante. Est-ce qu'il perd pied devant les cris de la foule? Veut-il innocenter Jésus? Ou au contraire, laisser à la foule toute la responsabilité de sa mort? Pour l'évangéliste, ce sont les grands prêtres et la foule qui ont dicté sa décision à Pilate. Pourtant, celui-ci a la réputation d'être cruel et intransigeant. Mais là, il ne veut plus défendre Jésus, il va lâchement laisser la foule décider à sa place. Pilate condamne un innocent et va relâcher un meurtrier pour plaire à la foule. Il livre Jésus aux soldats, à la foule, aux grands prêtres. Tous vont se tourner contre lui. Je vous invite à la prière. Éternel, nous te prions en Jésus, notre frère, seul dans sa souffrance. Nous te prions en Jésus frappé, en Jésus humilié, en Jésus mal jugé. Nous te prions en lui qui est frappé, humilié, abandonné. Et en lui, nous te prions pour ceux qui aujourd'hui sont frappés et aussi pour ceux qui frappent. Pour ceux qui sont humiliés et ceux qui humilient les autres. Pour ceux qui sont mal jugés et ceux qui jugent à l'emporte-pièce. Seigneur, nous te prions pour notre humanité qui ne sait pas toujours le reconnaître.
Ils réquisitionnèrent quelqu'un qui passait. Simon de Cyrène, qui venait de la campagne, père d'Alexandre et de Rufus, afin qu'il porte la croix de Jésus. Et ils portèrent Jésus jusqu'au lieu dit Golgotha, qui est traduit par « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, et Jésus n'en prit pas. Ils le crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir qui prendrait quoi. C'était la troisième heure. Ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa mort était ainsi, le roi des Juifs. Et avec lui, ils crucifièrent deux brigands, un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et hochaient la tête en disant « Et toi qui détruis le sanctuaire et le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » De même aussi les grands prêtres raillaient entre eux avec les scribes. « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ?» Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix pour que nous voyions et croyons. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Alors nous allons chanter, là, c'est ce que je...
Le 33,
Antonon à 51.
Le deuxième, s'il vous plaît.
La sixième heure était venue. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloï, Éloï, lama sabachthani !» Ce qui signifie, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient présents disaient, « Voici qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant posée autour d'un roseau, lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie va le faire descendre. » Mais Jésus, émettant un grand cri, expira.
Jésus n'est pas mort à cause de nous. Jésus n'est pas mort à cause de nos erreurs. Jésus est un homme libre qui fut injustement et cruellement mis à mort. Parce qu'il a bousculé la manière de croire des pharisiens, parce qu'il a désobéi à certaines lois des hommes, afin de ne respecter qu'un seul commandement, aime à l'infini les autres. Sans jugement, sans aucune condamnation, chacun, chacune d'entre nous a sa place devant l'Éternel. Les évangiles nous le décrivent pardonnant les soldats qui le clouent sur la croix et disant un mot d'encouragement aux brigands crucifiés comme lui. Il est plus juste de voir la croix comme l'expression ultime de fidélité à sa vocation, de nous révéler l'amour éternel que nous appelons Dieu. Il faut nous débarrasser de la culpabilisation transmise depuis des siècles. Jésus n'est pas mort à cause de nous, il est mort pour nous donner la vie. En nous donnant sa vie, nous avons reçu son enseignement. Devant nous s'ouvrent tous les chemins que Jésus nous invite à prendre, les chemins de vie, les chemins de pardon, les chemins de bienveillance, les chemins de réconciliation. Jésus, en mourant, nous offre l'amour éternel à vivre chaque jour.
Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était là en face de lui, ayant vu comment il avait expiré, dit « En vérité, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques, le mineur et de José. Et Marie Salomé. C'était elle qui le suivait et le servait quand il était en Galilée, avec plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation qui est l'avant-sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, distingué conseiller, qui lui aussi attendait le royaume de Dieu. Il osa se rendre chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût déjà mort, et appelant auprès de lui le centurion, l'interrogea pour savoir s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, Pilate accorda le cadavre de Jésus à Joseph. Ayant acheté un linceul, il descendit le corps et l'enveloppa dans le linceul. Il le déposa dans un tombeau qui était taillé dans la pierre, et il roula une pierre sur la porte du tombeau. Marie de Magdala et Marie de Josette regardaient où on le mettait.
Je dis à votre nom merci aux quatre musiciennes qui nous ont beaucoup réjouis avec leur musique. Voilà. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche de Pâques. Et je vous rappelle que Pâques, ça se vit tous les jours. Voilà. Mais c'est pas moi dimanche. À bientôt.
Merci, 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 Isabelle.